RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Bamiyan, en Afghanistan, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Kaboul, est mondialement connu pour ses bouddhas géants détruits par les talibans en 2001. Mais la vallée de Bamiyan, autrefois située sur la route de la soie, possède toujours un patrimoine culturel et naturel d'une richesse exceptionnelle et au cœur de l'une des régions les plus sûres mais aussi les plus pauvres du pays. Le jour où la guerre se lassera de l'Afghanistan, ébranlée par environ 35 ans de conflit, eh bien Bamiyan, déjà forte de plusieurs milliers de visiteurs par an, pourrait bien tirer parti de son incroyable potentiel et devenir le centre touristique du pays, elle qui a été désignée capitale culturelle d'Asie du Sud pour 2015. Un tel développement économique aiderait ainsi de nombreux habitants à sortir de la misère. C'est l'espoir en tout cas que partage toute la vallée et c'est le grand reportage que signe Joël Bronner en Afghanistan. Joël que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Au bout de 30 minutes de survol des hautes montagnes enneigées de l'Hindou Kush, un petit avion d'une cinquantaine de sièges parti de Kaboul touche le sol d'un minuscule aéroport. Une simple piste d'atterrissage entourée de grillages, avec une poignée de préfabriqués en guise d'infrastructure. Voici Bamiyan, joyau du patrimoine afghan. Paré d'un kawé bleu vif et d'un sac à dos de voyage, Liang et son maître 90 sont loin de passer inaperçus au milieu des Afghans qui attendent le prochain vol. Ce jeune chinois de 23 ans vient de passer 2 jours à découvrir Bamiyan et sa vallée, accompagné de son amie Rose. Pour voir cet ancien site bouddhiste, leurs pas de touristes les ont donc menés en Afghanistan, un pays toujours enfiévré par la guerre.
Ok, definitely, all of us are afraid of the...
Forcément, on avait un peu peur des risques. Mais je savais que d'autres visiteurs chinois étaient déjà venus ici. Donc, il m'a semblé que ça valait la peine de découvrir l'Afghanistan, malgré tout. La Chine entretient de bonnes relations avec ce pays, et l'élection présidentielle afghane est passée. Du coup, on a pensé que c'était le moment idéal pour venir. Et puis ici, à Bamiyan, on a rencontré des gens super chaleureux, qui nous ont beaucoup facilité le voyage. On a visité le site des Bouddhas, et on a vu les 6 lacs. J'ai oublié leur nom local, mais c'était vraiment magnifique.
Comme Rose, comme Liang, ils sont chaque année plusieurs milliers de touristes, majoritairement afghans, à venir visiter la région. Une des vallées les plus sûres d'Afghanistan et berceau de la minorité chiite Hazara. Vestige du 6e siècle, les bouddhas géants de 38 et 55 mètres ont longtemps été la principale attraction de Bamiyan, jusqu'au crime culturel de mars 2001 commis par les talibans. Sur ordre du Mollah Omar, les 2 colosses de pierre ont alors été condamnés à mort, puis exécutés à la dynamite. Le bonnet enfoncé jusqu'aux yeux de son visage bonhomme, Hamid, le guide touristique, parcourt depuis 5 ans les ruines de cet ancien site bouddhiste. Composé des 2 niches évidées, des bouddhas debout et de plus de 700 grottes, il formait à l'origine un vaste réseau de monastères, de chapelles et de sanctuaires.
Car ici se trouvent les fragments du Bouddha géant qui ont été réunis. Chacun d'entre eux a été numéroté et répertorié.
Sous son bonnet, Hamid se faufile derrière les pieds du plus imposant des 2 Bouddhas géants, seul parti à avoir survécu au dynamitage. Des pieds à présent coiffés d'échafaudages destinés à consolider la niche qui les abrite. Là, une cavité creusée dans la roche contient en effet tout un tas de pierres.
Pour une meilleure conservation, on les entrepose dans cette grotte parce que si on les laissait à l'extérieur, le soleil risquerait de les détériorer. On attend de pouvoir les utiliser à nouveau pour la reconstruction des bouddhas. Mais maintenant que le site a été classé au patrimoine mondial, c'est l'UNESCO qui doit trancher entre une simple consolidation des niches ou la reconstruction des bouddhas. La décision leur appartient.
Étudiante en 2e année d'anglais à l'université de Bamiyan, Mariam gravite avec son père les hautes marches qui mènent au sommet de la cavité qui entourait le plus petit des 2 Bouddhas. Durant le règne des talibans, elle et sa famille étaient réfugiées en Iran. Face au spectacle de la niche évidée, la jeune fille rêve de voir le géant reprendre forme.
Ça m'attriste parce que c'était un lieu magnifique. J'espère qu'un jour les Bouddhas seront reconstruits. Les touristes viendraient alors plus nombreux pour découvrir Bamiyan, ses sites historiques et ce site bouddhique en particulier. Ce serait formidable parce que les gens d'ici sont pauvres. La majorité d'entre eux vivent de l'agriculture et n'ont pas d'autres compétences. Du coup, ça fortifierait l'économie de la vallée si davantage de gens venaient visiter Bamiyan.
À Bamiyan, L'idée de reconstruire les Bouddhas disparus fait quasiment l'unanimité. Nombreux sont ceux qui pensent que la restauration de ces symboles permettrait en effet d'accélérer le développement touristique de la vallée. À Kaboul, Paolo Fontani, directeur de l'UNESCO en Afghanistan, se réjouit de l'enthousiasme suscité.
C'est déjà très très bien que les gens de Bamiyan pensent que ce serait bien de reconstruire les Bouddhas. Il n'y a pas de bouddhiste à Bamiyan, non? Donc, en Afghanistan, il n'y a pas une idée que la culture en Afghanistan n'est qu'islamique. La culture en Afghanistan, les Afghans sont très orgueilleux d'avoir une culture millénaire. Et pour avoir une culture millénaire qui remonte à 300 000 années avant Jésus-Christ, c'est clair qu'il faut parler de l'époque pré-islamique, que ce soit bouddhiste, que ce soit grec, par exemple.
Mais pour l'heure, si l'idée de bâtir à nouveau les Bouddhas, à commencer par le plus petit des deux, alimente toujours les discussions, aucun débat formel n'est en cours. Il y a quelques mois, une initiative sans concertation de la reconstruction de ses pieds a ainsi été stoppée net par l'UNESCO. Car outre toutes les questions techniques et de faisabilité, une éventuelle reconstruction sans l'aval de l'Agence des Nations Unies et de ses experts risquerait de remettre en cause le classement du site au patrimoine mondial.
Le débat, en fait, est surtout un débat national. C'est aux Afghans de décider quelle est la destinée des niches et si les Bouddhas doivent être reconstruits. Le site a été déclaré après que les Bouddhas ont été détruits. Donc aujourd'hui, pour les reconstruire, si le gouvernement afghan veut que les Bouddhas soient reconstruits et veut aussi que le site reste un site du patrimoine mondial. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est savoir si les Bouddhas peuvent être reconstruits, comment, quel type d'archéologie, quel type d'histoire, quel type de reconstruction on peut faire. Alors là, par contre, les idées varient beaucoup. Il n'y a même pas d'accord et d'agrément sur quel est le pourcentage de matériel original qu'il y a encore à de la statue. Il y en a certains, ils ne sont pas peu, qui disent que, en fait, c'est le vide qui est le symbole du site du patrimoine. Si un jour on ouvre un débat national et international sur la reconstruction de Bouddha, ça sera un débat très intéressant de plein de points de vue, y compris philosophiques.
Pour l'instant, l'UNESCO se concentre donc sur la consolidation des niches vides touchées par l'érosion et les chutes de pierres, même si les fonds pour préserver la structure rocheuse arrivent par ailleurs au compte-gouttes. Une situation qui n'empêche pas Paolo Fontani de vouloir croire au développement futur de Bamiyan dans le cadre d'un Afghanistan apaisé.
En tant qu'UNESCO, je pense qu'en tant que communauté internationale, tous, on a envie de penser que l'Afghanistan va passer dans une période de transition, transformation, et après, finalement, dans une période de stabilité et de paix. Donc, dans cette perspective, Bamiyan est effectivement un des endroits de l'Afghanistan qui pourrait être un centre d'un point de vue culturel et touristique. Donc, nous, on voit l'idée d'avoir une espèce de parc archéologique, en fait, à Bamiyan. C'est une région qui, à cause du fait que ce soit un site de patrimoine, a été absolument préservé. Aujourd'hui, déjà, Bamiyan compte pas mal de visiteurs nationaux. On pense que entre le site des Bouddhas, les citadelles islamiques, la vallée elle-même, donc plutôt naturelle, on imagine que ça va augmenter.
Car quel que soit le sort prochain réservé aux Bouddhas, la vallée compte bien d'autres attraits pour attirer en effet davantage de visiteurs à l'avenir. Parmi les merveilles du paysage, à 1h30 de route de Bamiyan, se trouve un prodigieux ensemble de 6 lacs en escalier. Celui dont Liang, le touriste chinois, ne parvenait pas à se rappeler le nom. Bandé Amir. Preuve de la majesté des lieux et de leur immense potentiel touristique, cette description poétique et colorée de l'écrivain Joseph Kessel dans son roman Les Cavaliers, daté de 1967. Pour lui, les lacs de Bandé Amir seraient, durant le jour, comme une floraison merveilleuse.
Avant d'enchanter à nouveau de ses feux couchants les lacs étagés du Bandé Amir, le soleil avait la moitié du ciel à traverser. Pourtant, ces eaux mystérieuses gardaient toute leur splendeur, toute leur magie. Ce vert, ce rose, cet azur, ce bleu profond, ce noir d'encre ne devaient rien au sortilège du crépuscule. Il n'y avait qu'une différence, la matière des gradins liquides n'était plus pierre précieuse, mais pétales de fleurs.
Cet endroit naturellement féerique est devenu en 2009 le premier parc national d'Afghanistan. Installé au pied des montagnes dans le principal village de Bandé Amir, Ibrahim Abrar est le chef de projet d'une ONG dédiée à la préservation de la vie sauvage.
There is no exact figure that how many people are visiting Bandé Amir per week or per month.
On ne dispose pas de chiffres hebdomadaires ou mensuels précis sur le nombre de visiteurs dans le parc de Bandé Amir, mais on estime que de mai à septembre, durant les 5 mois de la haute saison touristique, environ 20 000 personnes le visitent, des Afghans pour l'immense majorité. Notre problème principal, ou disons notre plus grand défi, c'est l'insécurité, du fait que les différentes routes qui relient Bamiyan depuis Kaboul, Mazar ou Herat ne sont pas sûres. C'est pour cela que de nombreuses personnes ne peuvent pas se rendre à Bandi Amir. Si la situation sécuritaire s'arrange, nous recevrons bien plus de visiteurs afghans, mais aussi étrangers. Je suis convaincu que Bamiyan et Bandi Amir peuvent devenir le centre culturel de l'Afghanistan.
Une dynamique déjà amorcée. Plusieurs festivals se tiennent ainsi tous les ans dans la vallée. Le plus important d'entre eux, celui de la Route de la Soie, en est à sa 6e édition. De son côté, l'UNESCO a lancé un appel aux architectes du monde entier pour le design d'un vaste centre culturel qui devrait surplomber la ville d'ici 2 ans. L'université de Bamiyan est aussi la seule du pays à proposer une formation tourisme, dont l'objectif est de permettre d'étoffer les offres à destination des visiteurs. Les premiers diplômés terminent cette année ce cursus en 4 ans, où enseigne Mohamed Reza.
Les étudiants qui vont être diplômés cette année n'ont pas vraiment bénéficié de la meilleure des formations, il faut bien l'admettre. Durant leurs 2 premières années, notamment, ils ont essuyé les plâtres. Mais d'année en année, notre formation s'améliore.
Pour ce professeur, le développement touristique est la solution pour sortir la vallée de l'ornière économique.
De mon point de vue, le tourisme est la seule industrie viable qui peut s'implanter ici. Parce que, par exemple, pour l'installation de n'importe quelle entreprise à Bamiyan, il faut de l'électricité, il faut une main-d'œuvre qualifiée et un investissement financier. Les habitants de Bamiyan sont pauvres et n'ont pas les ressources nécessaires. Ils n'ont pas de qualifications particulières non plus. En plus, Bamiyan manque d'électricité et il n'y a pas non plus de matières premières. À contrario, l'industrie touristique ne demande pas d'investissement financier trop élevé au départ et pas besoin de matières premières vu que les beautés naturelles, les sites et les monuments historiques peuvent eux-mêmes servir de matières premières pour développer le tourisme.
Ce développement permettrait selon lui d'enrichir la communauté locale tout en offrant davantage de protection aux différents sites de la vallée.
Aujourd'hui, en Afghanistan, la préservation du patrimoine est une vraie préoccupation, car notre héritage est en danger, notamment à cause des risques liés à la guerre et au pillage. Donc, la seule manière de le préserver, c'est d'en tirer un bénéfice financier. Et le point positif, c'est que la perception de tous les acteurs locaux a connu une évolution ces dernières années. Maintenant, les gens d'ici veulent s'impliquer dans le tourisme. Ils le voient comme une véritable chance.
Majoritairement agriculteurs, les 70 000 habitants de Bamiyan sont fiers de cultiver jusqu'à 12 variétés de pommes de terre. Une activité assez peu lucrative cependant, qui explique en partie le modeste développement du bourg, dont la rue principale fait office de bazar. Avec la moitié des échoppes faites de terre ou de tôle, le commerce demeure assez rudimentaire. Voûté sous le poids de ses 60 ans, Basgoul déplore que sa petite boutique de textile située dans un préfabriqué au pied des Bouddhas ne soit pas plus fréquentée.
Par là, eh bien, vous avez les vêtements traditionnels. On les vend entre 30 et 40 euros. Mais ici, les gens sont très pauvres, ils n'ont pas les moyens. Donc il n'y a que les touristes qui achètent, mais il faudrait qu'il en vienne plus.
Preuve de cette pauvreté parfois extrême, les moins chanceux d'entre eux n'ont pas de quoi investir dans un abri décent. À quelques mètres à peine des niches qui abritaient les Bouddhas, une série de grottes est ainsi occupée par plusieurs centaines de familles déplacées par les violences de la guerre. Elles y ont installé des portes et des fenêtres, des paraboles ont aussi poussé sur certains toits rocheux. C'est la situation que connaît depuis 13 ans la famille d'Ibrahim, pulmitée, dents élimées et yeux rougis par un sommeil difficile, à l'heure où l'hiver prend ses quartiers sur ce terrain balayé par les vents.
Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir acheter ou construire une maison pour moi et ma famille. C'est dur, mais qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid comme en ce moment, nous n'avons pas d'autre option que de vivre dans cette grotte. En plus, à l'extérieur, ça peut être dangereux parce qu'il y a des chutes de pierres, de jour comme de nuit, particulièrement les jours de pluie. On n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on vit. Il nous faudrait au moins 3 000, voire 4 000 dollars pour acheter un bout de terrain et y construire une maison. Mais on n'en a absolument pas les moyens.
Signe d'espoir pour tous les habitants, Bamiyan vient d'être désignée première capitale culturelle de l'Asie du Sud à partir d'avril 2015. Une occasion unique pour promouvoir la vallée et développer ses infrastructures. C'est en tout cas ce que veut croire Razizi, à la tête de l'association touristique de Bamiyan.
Cette désignation apparaît comme une formidable occasion pour le développement de la vallée. On espère que grâce à ça, l'aéroport de Bamiyan puisse devenir international, que les routes soient asphaltées et qu'il y ait davantage de policiers pour assurer la sécurité. L'objectif de tout cela, c'est que les touristes puissent venir directement de l'étranger en avion à Bamiyan et qu'ils profitent au maximum de leur séjour sur place.
Aujourd'hui, personne à Bamiyan ne se risque à pronostiquer à quel horizon l'Afghanistan sera enfin débarrassé de la guerre, à quel horizon la stabilité du pays offrira un avenir pérenne à la vallée des Bouddhas. Mais ces derniers mois, pas moins de 5 hôtels de luxe à destination des touristes ont poussé à Bamiyan. Signe qu'en attendant que le pays se débarrasse de ses démons, petit à petit, Bamiyan et ses trésors se préparent à s'ouvrir au monde. Bamiyan, nouvelle capitale touristique de l'Afghanistan. Un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Marc Minatel.
با ما درست داده قانون از عدالت می گذشتان دوره‌ی ظلم و جهالت.
Joël Bronner, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors d'abord, tout simplement, pouvez-vous nous expliquer comment vous vous êtes rendu à Bamiyan?
Alors, comme c'est évoqué dans le reportage, Bamiyan a beau se situer à seulement 150 km de la capitale Kaboul, les routes qui y mènent ne sont pas sûres. À la fois, ce sont des routes de haute montagne qui sont mal entretenues, et ce sont aussi des routes qui peuvent être sujettes au banditisme et, en fonction des zones, à d'éventuelles attaques talibanes. Tout ça réuni fait que dans une perspective touristique, qui est l'objet du sujet, l'avion est la seule possibilité réellement envisageable pour se rendre à Bamiyan à l'heure actuelle. Donc, pour rallier Bamiyan en avion, qu'on vienne d'Afghanistan ou bien de l'étranger, il existe aujourd'hui une seule et unique possibilité, à savoir décoller de Kaboul. Il existe des vols affrétés spécialement pour l'ONU ou pour les ONG sur place, mais aussi des vols réguliers, entre 2 et 5 par semaine en fonction de la saison. C'est donc grâce à un de ces vols, dans un MA-60, un coucou chinois copié sur le modèle de l'Antonov russe, que j'ai pu rejoindre Bamiyan.
Vous le disiez au début de votre grand reportage, l'aéroport de Bamiyan est tout petit et uniquement composé, préfabriqué. On est loin encore des standards internationaux.
Tout à fait. Et pour être complet, à côté des préfabriqués, il existe aujourd'hui un bâtiment en dur. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'il est sorti de terre et on peut d'ailleurs voir à travers ses fenêtres qu'il dispose de tous les scanners et tous les portiques modernes pour contrôler les voyageurs. Mais aujourd'hui, concrètement, pour prendre l'avion de Bamiyan à Kaboul, il n'y a qu'un contrôle très rudimentaire effectué par un militaire tout seul à l'entrée de la porte grillagée de l'aéroport. Alors, ce terminal en dur, il a été construit avec l'appui d'investissements étrangers, et s'il n'est toujours pas en service, c'est qu'il attend d'être officiellement inauguré par le président Ashraf Ghani, en poste depuis fin septembre. Mais quoi qu'il en soit, même après l'inauguration de ce nouveau bâtiment, l'aéroport de Bamiyan ne sera pas encore vraiment aux normes de trajets internationaux, vu que, par exemple, le site est seulement entouré d'un grillage.
Alors on a bien compris que les acteurs du tourisme à Bamiyan espéraient développer le nombre de visiteurs. Quel type de touristes espèrent-ils capter en priorité?
La priorité à Bamiyan, c'est d'abord clairement de faire venir plus de visiteurs afghans. Mais le second grand espoir, c'est la création de liaisons internationales. Ce type de trajet direct permettrait selon eux de multiplier le nombre de visiteurs venus de l'étranger et en particulier de l'Est. Alors pourquoi de l'Est? Parce qu'en Inde, en Chine, en Corée ou encore au Japon, la culture bouddhiste très répandue peut favoriser l'envie de découvrir cet ancien site bouddhiste qu'est Bamiyan. Donc le pari du développement à l'étranger se fait avant tout à l'Est et la liaison attendue en priorité serait un New Delhi-Bamiyan qui relierait l'Inde à l'Afghanistan sans plus du tout passer par la capitale Kaboul. Sur cette question, des discussions informelles ont déjà eu lieu, mais aucun projet précis pour l'ouverture de cette liaison directe n'est pour l'instant, si j'ose dire, sur les rails.
Ce sera le mot de la fin, un grand reportage bien sûr à réécouter dans son intégralité sur RFI.fr. Joël Bronner, merci beaucoup, bonne journée.